Bienvenue dans votre magazine Terre d'héritage.
Terre d'héritage, c'est valoriser le patrimoine près de chez vous. Le patrimoine de la Sarthe, de l'Orne et de la Mayenne, nous allons vous faire découvrir les trésors qui vous entourent.
Terre d'héritage sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la restauration de l'église de Saint-Christophe du Jambé. Pour cela nous recevons Lydia David-Vallée, première adjointe, et Anthony Frileux, maire de cette commune Saint-Christophe du Jambé. Alors Madame David-Vallée et Monsieur Frileux, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Dans un premier temps, présentez-nous cette commune de Saint-Christophe du Jambé.
Alors la commune de Saint-Christophe du Jambé fait partie du canton historique qui était donc celui de Beaumont-sur-Sarthe, qui aujourd'hui est réuni avec celui de Fresnay, donc qui compose le nouveau canton de Saint-Guillaume. Dans cet ensemble, nous sommes situés à 183 mètres d'altitude, donc on est un des villages, je pense, les plus hauts perchés du secteur, après peut-être Saint-Léonard qui doit nous concurrencer, je pense. Ce village, on est composé d'une superficie de 1124 hectares, donc une commune qui est assez grande, très longue, pas très large. Donc quand on a besoin d'intervenir d'un bout à l'autre de la commune, voilà, il faut parcourir souvent plusieurs kilomètres. Et donc ce charmant village est composé d'une population, alors officielle, selon les chiffres de l'INSEE, de 235 habitants, mais je pense que suite à l'effet Covid et la vente de nombreuses maisons qui étaient inoccupées auparavant, on est plutôt autour des 280 habitants.
Et concrètement, où elle se trouve cette commune en Sarthe ?
Alors elle se trouve donc du coup au nord du département, donc on va dire en marge de l'axe principal de l'ancienne Nationale 138, donc qui rejoint Le Mans à Alençon. Donc on est un peu sur la gauche et on est un peu excentré en direction de Saint-Guillaume, vers Montreuil-le-Chétif, voilà, et puis Fresnay-sur-Sarthe, entre Beaumont et Fresnay. On est coincé entre ces deux petites jolies villes.
Et vous êtes tous les deux élus de cette commune de Saint-Christophe-du-Jambé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à chacun votre fonction au sein de cette commune ?
Alors moi, en qualité de maire, je suis un petit peu le chef d'orchestre de l'équipe municipale. Nous sommes arrivés donc le 28 mai 2020 dernier, à l'occasion donc du renouvellement de l'ensemble des conseils municipaux. Il y a eu un choix très rapide qui a été fait d'essayer de plutôt partager les responsabilités. Donc on a fait le choix au sein de l'équipe municipale. En tout cas, moi, j'ai souhaité donner des délégations à l'ensemble des élus qui le souhaitaient. Donc j'ai vraiment transféré mes compétences sur des domaines précis en fonction des appétences de chacun et puis en fonction aussi du temps dont chacun pouvait disposer. Je pense que voilà, partager les responsabilités, c'est bien, c'est aussi fédérateur et ça permet aussi de mieux travailler en équipe. Donc là, c'était vraiment un souhait qui était aussi désiré par l'ensemble de l'équipe.
Et vous, Madame David-Vallée ?
Alors, moi, je suis première adjointe dans cette charmante commune de Saint-Christophe-du-Jambé, dans une équipe municipale jeune. Je suis la doyenne. Donc, la moyenne d'âge est d'environ 42-43 ans. Mes attributions, moi, j'ai des délégations en cours depuis le début du mandat, donc concernant surtout les affaires sociales, les affaires scolaires, tout ce qui est personnel communal, la communication. Donc, je suis bien occupée. Et puis, je suis en charge de certains projets que me délègue Monsieur le maire.
Et pourquoi avoir choisi justement tous les deux d'entrer dans ce conseil municipal de Saint-Christophe-du-Jambé ?
Alors moi, pour ma part, c'est vrai qu'étant un enfant du village, voilà, j'ai vécu ici depuis que je suis tout petit. Donc mes grands-parents étaient natifs du village, mes parents sont restés aussi implantés sur la commune. Mes arrière-grands-parents étaient également originaires de la commune. Donc voilà, il y avait une volonté d'essayer de continuer à faire vivre ce village et d'essayer de le mettre en valeur pour qu'on puisse le faire découvrir en tout cas à ceux qui ne connaissent pas. Et puis aussi essayer de faire avancer les choses pour que ceux qui y vivent puissent au quotidien trouver que finalement on est bien dans ce petit village. Et essayer de se dire, c'est ce qu'on se dit souvent avec Lydia, on essaie de toujours travailler sur nos dossiers en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà, c'est un peu notre leitmotiv pour avancer sur nos projets.
Voilà, pour ma part, moi c'est un petit peu différent parce que moi, la commune de Saint-Christophe-du-Jambé, je ne la connais que depuis 2018, donc moi je suis très jeune par rapport à Monsieur le maire au niveau de la commune. Par contre, quand j'ai rencontré Anthony et puis certains membres qui maintenant composent le conseil municipal, j'ai été aussitôt, emballée par ma nature qui est d'aller vers les autres. Et j'ai déjà, moi, à mon actif deux mandats de conseils municipaux, mais dans une autre commune. Et donc, j'avais le souhait d'apporter un petit peu mon expérience. Et puis, j'aime ça, quoi. J'aime les gens. Donc, j'ai pas mis de temps avec Monsieur Frileux à m'investir au niveau de cette commune et de la découvrir. Et j'en suis très ravie.
Et combien de personnes au sein, justement, de ce conseil municipal de cette commune?
Alors, le conseil municipal est composé de 10 membres à ce jour.
Avec des rôles différents, je suppose, pour chaque membre.
Voilà, en fonction des délégations que j'ai attribuées, voilà, en fonction, effectivement, de ce que je disais tout à l'heure, de la disponibilité des uns et des autres, mais aussi en fonction des appétences qu'on peut avoir sur certains domaines ou des compétences professionnelles. Essayer d'être en adéquation avec ce qu'on sait faire. C'est important.
Tout à fait. On peut noter aussi que nous sommes 3 adjoints. Et ça, je pense qu'on a chacun notre part de travail. Pascal Iseux, par exemple, s'occupe de tout ce qui est voirie communale. Et puis, de la station d'épuration. C'est quand même
un gros travail.
Voilà. Et puis, monsieur Samuel Letard, qui, lui, s'occupe de tout ce qui est...
Oui, en fait, tout ce qui est plutôt lié à l'habitat, la rénovation thermique, les énergies renouvelables. Voilà, c'est plus un peu son domaine. Donc, plus un peu un lien avec la notion d'urbanisme et de développement de la commune.
Et quelle est la politique mise en place justement depuis votre élection ?
Alors la première politique, ça a été de dire on ne se lance pas tête baissée dans les dossiers. On commence par prendre du recul, de voir un peu ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui serait bon de faire évoluer et surtout de se faire entourer de professionnels pour le faire. Donc on a fait un choix qui financièrement est important mais qui me paraissait moins indispensable. C'était de missionner un cabinet d'architecture de renom, je ne sais pas si on peut le nommer, mais qui est donc le cabinet Faro Architecte, avec qui on travaille pour élaborer un schéma directeur qui nous permet un peu de se donner une feuille de route. Alors au-delà du mandat qu'on est en train de travailler, mais sur les 10-15 ans à venir, sur quelle évolution on souhaite à la commune, dans quel secteur, pour y faire quoi, et essayer de chiffrer aussi derrière tous ces éléments, puisque le financement reste évidemment... la question à résoudre avant de se lancer dans un projet.
Et vous avez d'ailleurs donné comme chargée de projet Madame David Vallée sur cette restauration de l'église. Alors avant de parler de la restauration, est-ce que vous pouvez nous dire l'histoire de cette église ?
Alors notre petite église, c'est une petite église en fait, d'architecture romane. C'est une église simple, mais qui cependant est relativement singulière. Du fait déjà de sa situation à 183 mètres d'altitude dans notre département, c'est la plus haute je pense. Et puis cette église a fait l'objet déjà de grosses restaurations et a été classée donc aux monuments historiques.
Je crois que c'est en 1912 de mémoire.
Ce que je voulais signaler surtout sur l'église, c'est qu'elle a des particularités. Et quand on entre dans cette église, on a l'impression d'ouvrir un coffret à bijoux. En fait, quand on la découvre, moi je l'ai découverte, puisque je peux pas dire que je connaissais beaucoup la commune antérieurement, à chaque fois qu'on lève les yeux ou qu'on regarde quelque chose, on voit sa particularité. Et surtout, c'est une église du 12e et en entrant par exemple par la grande porte principale, si vous levez les yeux vers la première voûte, vous verrez dans la pierre écrit en majuscule gothique du 13e siècle, l'une des plus anciennes inscriptions du département. L'an de l'incarnation du Seigneur, 1230. Du temps de Jacques Lefranc, curé de cette église. Cette inscription rappelle en fait la date du fin du travail de la construction des voûtes, donc de la fin de la construction de l'église.
Évidemment, c'est écrit en latin, donc c'est un peu moins
mais déchiffrable. C'est joli à regarder.
Ouais, très beau.
Ouais, ouais. Très très beau.
Et pourquoi justement s'être lancé dans cette restauration de cette église ?
Parce que en fait, on y a vu, nous, on a deux statues qui sont classées. On a retrouvé, on a recherché dans l'église, les dossiers qui étaient à la mairie, et on a trouvé. Et en fait, nos deux statues ont été également classées. Donc, elles ont été classées le 3 octobre 1908. Et on a eu envie d'en prendre vraiment soin parce que il faut transmettre. Notre souci, c'est transmettre aussi aux futures générations le patrimoine communal que nous avons. Et donc la sculpture de Saint-Christophe du Jambé est fragile parce qu'elle est en bois. Elle est en bois polychromé, donc ça veut dire qu'elle a été peinte. Et elle est immense, en fait. Elle mesure environ 3 mètres de haut sur 80 cm à peu près de large et 60 de profondeur. Donc c'est quand même une grosse statue qui a la particularité d'être un peu naïve au niveau de la sculpture et qui représente donc Saint-Christophe avec le Jésus sur l'épaule et son grand bâton de voyageur et puis qui pouvait, de par la légende, aider les voyageurs à traverser les fleuves, etc., les rivières.
La deuxième statue ?
Alors, la deuxième statue, c'est une statue différente. Alors, pour revenir juste à Saint-Christophe, c'est une statue du 15e siècle quand même. La sculpture de Saint-Jacques, c'est une sculpture en terre cuite du 17e, année 1630 à peu près, hein, qui elle aussi est classée. Donc, elle est de dimension beaucoup plus relative et elle est un petit peu plus artistique, hein, au niveau de sa présentation, on va dire. Elle mesure 1,70 m de haut à peu près et elle représente Saint-Jacques sur la route de Compostelle, en fait, vêtue d'une tenue de pèlerin en sandales avec son bâton de marche et puis sa coquille Saint-Jacques, bien sûr, sur son chapeau.
Oui, donc des belles restaurations, hein, sur ces deux statues. Cette restauration, comment elle est financée ?
Alors, elle est financée par des partenaires qui, je pense, sans leur intervention, nous aurait posé beaucoup de difficultés pour financer tous ces travaux. Le financeur principal, c'est la DRAC, hein, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, évidemment, puisqu'elles sont classées, ces statuts. Donc ça nous a permis de bénéficier déjà d'un premier financement de 40%, auquel on a pu aussi ajouter un financement complémentaire par le Conseil départemental, qui lui nous a donc octroyé un financement à hauteur de 20%, donc ce qui nous a permis de bien nous aider pour financer ces travaux. Donc il faut savoir que le coût total, hein, de cette opération est quand même de 16 000 euros, 16 067 euros exactement.
Hors taxe.
Donc sur l'ensemble de ces travaux, en fait, on a eu un troisième partenaire qui lui, alors, est bien connu, c'est la Fondation du Patrimoine. Donc là, on a effectivement lancé une cagnotte en ligne qui a permis de récolter des fonds. On avait travaillé donc avec la Fondation sur un objectif de 4 000 euros qui a été largement dépassé, donc on en est très content. Et alors je n'ai plus le montant exact, je suis désolé, de la Fondation du Patrimoine parce qu'on n'a pas complètement bouclé encore l'opération, mais
c'est... On est à plus de...
À 4 800, je pense, plus
une aide du club des mécènes de la Sarre de la Fondation du Patrimoine qui abonde des travaux à hauteur de 2000 euros.
Il est toujours possible, hein, de faire des dons. Comment faire un don ?
Alors, soit vous vous rendez sur le site donc de la Fondation du Patrimoine.
Alors, c'est www.fondation-patrimoine.org-78728.
Ça vous amène donc directement sur la page donc de l'église de Saint-Christophe du Jambel, l'église Notre-Dame, il ne faut pas l'oublier,
oui,
parce qu'elle a un nom. Elle est dédiée à Notre-Dame. Mais on peut aussi contacter la mairie, soit par mail ou soit par téléphone. Bon, je le redonne pour ceux qui souhaiteraient nous contacter. Donc, le téléphone, c'est le 02 43 97 06 23 et par mail...
mairie.saintchristophedujambel.fr.
Alors, qui s'occupe de la restauration ?
Alors, la restauration, bien sûr, on a fait faire des devis. Et la restauration est réalisée par des restaurateurs, enfin, ce sont des restauratrices, là, en l'occurrence, qui sont des restaurateurs agréés. Lorsqu'on touche au patrimoine, hein, enfin, aux objets classés, n'importe qui ne peut pas intervenir sur les objets. Donc, ce sont des restauratrices agréées. Et pour notre statue de Saint-Christophe, c'est Madame Hélène Gruot et Madame Emmanuelle Cédille qui ont restauré la statue sur place. Et à cette occasion, nous avons fermé l'église du 17 octobre au 30 novembre pour le moment, parce qu'en fait, il y a non seulement le travail de restauration, mais il y a aussi les produits pour éviter les insectes xylophages, hein, pour protéger la statue. Et bon, bah, ça peut être un petit peu nocif, donc on a préféré fermer l'église. Alors, pour cette statue de Saint-Christophe, donc Madame Gruot et Madame Cédille habitent dans l'Indre-et-Loire, dans le 37, voilà. Et puis, pour la statue de Saint-Jacques de Compostelle, c'est Marie Gouret qui vient du Maine-et-Loire. Elle a préféré emmener la statue dans son atelier pour la restaurer. Donc la statue est partie le 26 octobre. Nous avons aussi, dans l'ensemble de ce projet de restauration, fait réaliser la création d'un nouveau socle pour Saint-Jacques. Parce que la statue de Saint-Jacques était posée sur un meuble en bois, enfin vraiment très très ordinaire, et on estimait que cette statue classée méritait beaucoup plus que ça. Donc on fait faire actuellement par monsieur Franck Domain, qui a un atelier qui est tailleur de pierre et qui a un atelier à Melleray dans la Sarthe, un socle à l'identique à celui de Saint-Christophe, mais qui sera proportionnel bien sûr à la dimension de la statue. Donc ce socle sera bien en pierre avec les colonnes de marbre qui sont représentées déjà sur le socle de Saint-Christophe. Je voulais juste dire quelques mots sur la restauration, parce qu'en fait, la restauration d'un objet, surtout d'un objet classé, c'est pas juste, par exemple, on pourrait se dire, bon, elles vont être peintes et elles vont être jolies. C'est pas ça, la restauration d'objets. C'est respecter l'histoire de l'objet et permettre justement sa transmission aux futures générations. Donc, ça se déroule en plusieurs étapes. La première étape, Madame Gruau m'a bien expliqué qu'il fallait d'abord observer la statue afin de déterminer vraiment les choix de restauration et de conservation à réaliser. Pour des objets classés, il faut que ce soit fait donc en accord avec le conservateur du département et de la DRAC. Ensuite, la deuxième étape, on s'est aperçu aussi sur la restauration de Saint-Christophe, par exemple, elles ont découvert à l'observation qu'il y avait déjà eu une restauration, puisque je rappelle qu'il s'agit d'une statue du XVIe siècle, qu'il y avait déjà eu une restauration au niveau du XVIIIe siècle, certainement à nouveau de la peinture, et cela fait apparaître également une restauration, et là on a retrouvé à la mairie des documents écrits, une réalisée en 1903 et une en 1952 par l'atelier Mainponte. Et l'atelier Mainponte, Mme Gruau m'expliquait qu'en fait recouvrait facilement les salissures pour rafraîchir l'ensemble, mais que là elles étaient obligées d'enlever et de faire un nettoyage. Donc la deuxième étape, on arrive à la consolidation donc des pièces désolidarisées de l'ensemble, même des petites écailles. Elles recollent, elles enlèvent les enduits qui ont mal vieilli à l'aide de solvants et elles nettoient vraiment la statue, enfin l'œuvre, pour la rafraîchir. Et là on a bien vu la différence, nous, quand on a suivi les travaux chaque jour. Troisième étape, c'est le comblement des lacunes à l'aide du lissage. Bien sûr, c'est du bois et ça fait des petits creux, ça fait, enfin, où il a fallu enlever plus que du fait des insectes. Donc, elle comble les lacunes pour redonner un aspect fluide à la statue et notamment pour le Saint-Christophe au niveau de son manteau pour obtenir une lecture agréable de l'objet tout en conservant son histoire. Donc là aussi, c'est comme le nettoyage, hein, il faut vraiment, c'est un travail de patience et de minutie. Et ça s'appelle la remise à niveau. Après, la quatrième étape, je vous disais tout à l'heure, l'église étant fermée au public, il y a eu le traitement du bois, donc sans enveloppement pour là, puisque l'église était fermée, pour éviter justement la propagation d'insectes xylophages qui peuvent ronger la statue. Pour le moment, elles n'ont pas constaté, ni Mme Gruau ni Mme Cédi, de nouvelles attaques. Et il a fallu une pause minimum de 15 jours pour la pénétration du produit. La cinquième étape, c'est la mise en teinte des lacunes de la polychromie pour avoir une plus grande lisibilité de l'œuvre. Donc, il faut savoir que seules les zones de rebouchage sont colorées. En fait, on ne recolore pas toute la statue, ce que je disais tout à l'heure. On ne repeint pas la statue, en fait. Et la sixième étape sera, là on ne l'a pas encore, sera un rapport détaillé de la restauration qui a été effectuée pour qu'on puisse savoir après quel travail a été effectué en octobre et novembre 2022 sur cette statue. Enfin, sur cette statue et sur les autres statues. L'autre statue.
Alors, je voulais insister un peu sur cette notion de restauration pour... Enfin, j'espère que les donateurs ne seront pas déçus. Il faut bien avoir l'évidence qu'en fait, une restauration réussie, c'est une restauration qui ne se voit pas, ou peu. Donc, si effectivement des donateurs pensent retrouver la statue avec des couleurs flamboyantes, ce n'était pas du tout l'objectif de cette restauration. C'était au contraire de nettoyer les impuretés qui se sont déposées par le temps. Mais tout en rendant les reliefs à cette statue, on corrige à la marge, on rajoute quelques points de peinture très légers avec un pinceau. Mais en tout cas, l'idée d'une restauration, restauration n'est pas de repeindre intégralement une statue.
Mais là, ça se voit, hein, franchement, il est beaucoup plus frais, il est beaucoup plus beau, notre Saint-Christophe.
Il est beaucoup plus majestueux.
Beaucoup plus, et beaucoup plus lisible.
Et également la restauration des cloches.
Tout à fait. Alors, on a eu la chance d'avoir la visite de Quentin Boinet, donc, qui est un jeune homme de la région de Sils-Guillaume, qui est passionné donc, par le patrimoine campanaire, notamment des églises sartoises. Et donc, du coup, il nous a proposé de venir nous rencontrer pour essayer un petit peu de nous refaire un historique de nos cloches et de les filmer en fait en action, on va dire, donc pendant leur volée. Donc Quentin est intervenu à plusieurs reprises, nous a fait un petit historique, je laisserai Lydia vous en parler mieux que moi, nous a retrouvé le nom de ces cloches, leur datation. Et donc grâce à ce travail, donc Quentin nous a effectivement mis en évidence que les battants des cloches, donc le battant c'est le marteau hein, qui permet de frapper la cloche donc pour la faire vibrer, donc sonner et teinter. Et donc ces marteaux étaient vraiment usés et le risque était en fait de fissurer la cloche à terme. Donc une cloche fissurée, effectivement, si vous la cassez, vous la fissurez, on ne retrouvera jamais le son qu'elle avait avant de causer ces dégâts. Donc il était urgent de procéder à cette restauration. Donc là encore, on a pu travailler sur ce projet grâce au conseil départemental, cette fois-ci dans le cadre du plan relance, donc qui nous a octroyé une aide d'un peu plus de 2300 sur un coût de restauration qui était de 3130 euros hors taxe. Donc c'est la société Mamias qui est basée à Chelles qui est en train de faire ce travail. Je vais laisser donc Lydia présenter les deux cloches en question qui ont été pour l'instant désactivées. Donc on ne les entend plus sonner. On espère les retrouver avec un son et une vigueur très rapidement.
Alors je vais vous présenter les cloches de notre église puisqu'on a appris leur nom. On est très content d'ailleurs maintenant de mieux les connaître. On essaiera de proposer à mettre dans l'église justement une petite présentation de tout ce qu'on a pu obtenir comme renseignement. Donc la cloche numéro 1, en fait le fondeur, c'est une fonderie qui est bien connue sur le Mans puisque il s'agit de la fonderie Bollé et elle a été réalisée donc en 1889 et elle se nomme Marie Joséphine Louise Sarah. Elle pèse 530 kg et mesure 968 mm de diamètre. Notre cloche numéro 2 est plus petite et le fondeur, c'est pareil, c'est un fondeur connu sur le Mans, c'est Louis Cancel. Concernant l'année, c'est 1836 et elle s'appelle également Marie, mais Caroline Adélaïde. Et elle pèse 330 kg et mesure 839 mm de diamètre. Ce sont de beaux bébés, on va dire. Donc, Monsieur Boinet nous a fait aussi des photos. Nous avons à notre disposition maintenant des photos pour faire un petit book, en fait, sur nos deux cloches.
On va aller au-delà de cette restauration. Effectivement, on a fait donc réparer les battants. Mais on en a profité aussi pour un petit peu essayer de faire revivre le son, la vie de ces cloches par rapport à la manière dont on les utilisait autrefois. Donc, dans un premier temps, suite à cette restauration, en fait, on a fait remplacer les moteurs qui permettent en fait de freiner les cloches, puisqu'il y a eu une époque où, sans doute parce qu'on voulait que le bruit soit pas trop insistant, en tout cas pour les habitants des centres-bourgs, donc on avait eu tendance à mettre des mécanismes qui freinaient rapidement en fait l'envolée des cloches pour que l'arrêt de la sonnerie en fait soit plus rapide qu'au naturel. Donc, on a commencé par changer en fait ce mécanisme qui va permettre aujourd'hui de retrouver des cloches qui, lorsque les tintements s'arrêteront, eh bien, ils vont s'arrêter de manière beaucoup plus naturelle. Et plus lente, donc on aura une sonnerie qui sera un peu plus longue, mais en même temps c'est aussi aller vers le respect de la tradition de ce qui existait auparavant. Donc voilà, c'est un peu aussi l'idée de se dire ben il faut faire vivre aussi les traditions. Donc en réinstaurant ce mode de fonctionnement, on va retrouver un fonctionnement, même s'il est aujourd'hui mécanique, qui sera beaucoup plus près de ce qui se passait autrefois avant d'avoir motorisé ce type de clocher.
Voilà. Et Quentin Boinet nous a donné une programmation d'un Angélus festif, donc on a demandé à l'association Mamias de nous mettre tout ça en fonctionnement en fait.
Donc en fait l'Angélus festif, c'est essayer de répéter en fait une envolée des cloches à chaque Angélus, donc le samedi et le dimanche, donc à 7h et à 19h, où on aura en fait un battement non plus d'une cloche mais des deux cloches, comme quand on va à un mariage ou à une sépulture malheureusement. Donc on aura vraiment une sonnerie qui sera bruyante, qui se répétera quatre fois dans le week-end. Mais en même temps, c'est aussi de montrer que c'est le week-end, que c'est la fête, et que c'est une façon de marquer le week-end, oui, en tout cas sur le matin et la fin de journée.
Non, c'est pas le matin, ce sera le midi, en fait.
Pardon.
Parce que comme ça va éviter de réveiller les gens. Et puis, ce sont des sonneries qui seront quand même modérées dans le temps, puisqu'elles seront de 2 minutes à 2 minutes 30.
Oui, donc on aura bien compris, bien sûr, cette politique de restauration pour la commune de Saint-Christophe-du-Jambay, et notamment l'héritage de cette commune avec cette église Notre-Dame.
Tout à fait.
Alors sinon, pour justement cette commune, y a-t-il des projets ?
Alors oui, on a beaucoup de projets. Alors effectivement, le projet global, c'est d'abord l'église. Donc on a commencé les travaux par la restauration donc des deux statues et des cloches, mais on a d'autres projets à venir. Lydia va nous en parler. L'idée, c'est vraiment de se dire que notre église, d'abord, on sait qu'elle est très fréquentée. Donc on essaie de travailler sur une ouverture au public qui sera en tout cas plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. On a encore une programmation à voir, mais surtout pour la période d'été, on a beaucoup de randonneurs, beaucoup de vététistes et des gens qui s'arrêtent. D'ailleurs, il y a un livre d'or, donc chacun peut laisser aussi des commentaires, et on a souvent des commentaires vraiment encourageants pour nous dire cette église est magnifique, il faut continuer à l'entretenir comme elle est aujourd'hui. Et c'est vraiment un aspect pour moi, en tout cas au niveau du tourisme et de la culture. C'est, je dis souvent, c'est difficile. Il est cultuel à la base, mais il devient aussi culturel. C'est vraiment une porte d'entrée pour venir voir notre village et le découvrir plus en profondeur après sur son aspect paysager et aussi architectural.
Au niveau des projets, donc on a encore et on a déjà travaillé un petit peu avec l'architecte des bâtiments de France pour restaurer en fait nos menuiseries, parce que nos menuiseries sont assez abîmées, on va dire, et elles ont besoin d'être restaurées. Et on voudrait le faire comme cela nous a été conseillé, donc en utilisant une peinture naturelle à base de farine avec des pigments naturels de couleur ocre. Donc on va essayer de mettre tout ça en place et puis refaire, parce qu'au niveau de notre notre clocher. Nous avons deux grandes fenêtres, sauf qu'elles sont complètement abîmées et il faut qu'elles soient complètement restaurées là aussi. Et puis on a fait la proposition maintenant encore à revoir, puisque notre belle sculpture de Saint-Christophe est tournée vers la porte centrale. Antérieurement, au Moyen-Âge, les gens pouvaient ouvrir un Judas dans la grande porte de l'église pour demander protection à Saint-Christophe. Ce Judas a été supprimé, donc éventuellement on aimerait vous revoir avec les Bâtiments de France pour savoir si on ne pourrait pas réinstaller justement ce qui existait, de façon en plus, quand l'église est fermée, à pouvoir au moins voir cette belle statue de Saint-Christophe. Et j'ai oublié tout à l'heure de préciser aussi que pour Saint-Jacques, pour le moment, il était mis sur un côté de la porte latérale. On le voyait peu quand on arrivait dans l'église par la porte latérale. Donc, afin de le mettre en valeur, il va se trouver en face la porte latérale sur son nouveau socle. Là, il va prôner de façon beaucoup plus admirable, on va dire. On va pouvoir bien le regarder. Après la restauration des menuiseries, on souhaiterait, alors là, c'est aussi un grand projet, la restauration de nos vitraux, parce que les vitraux sont anciens aussi, et tout ce qui est le plomb qui entoure les vitraux devient poreux et laisse passer trop d'humidité sur justement toutes les parties, on va dire, de roussard, etc., puisque notre église c'est du roussard, et ça abîme et ça désagrège en fait tout ce qui est maçonnerie. Donc il faudrait restaurer nos vitraux, et on a eu la grande surprise en regardant et en préparant justement, c'est commencer à préparer ces dossiers de restauration. Pour trois d'entre eux, on a regardé, on a vu qu'en fait il s'agissait d'un triptyque de Jeanne d'Arc qui sont estampés des ateliers Champignol de Paris datés en 1910. Donc cet atelier, en fait, c'est un atelier relativement renommé sur la région parisienne. Et puis on a nos très beaux vitraux, les cinq vitraux de la nef qui ont été réalisés par les Carmélites du Mans. Et là, c'est la même chose, c'est vraiment un atelier de très très grande qualité, hein, puisqu'ils ont exporté aussi certains vitraux aux États-Unis, enfin, ou au Japon, etc. Donc ce sont de très très beaux vitraux. Voilà, donc on espère qu'on arrivera aussi à tenir ces projets-là. Et puis, dans notre clocher, on a retrouvé des tas de petits morceaux ou des plus grands morceaux de statues cassées. Vraisemblablement, là c'est des spécialistes qui l'ont dit, ce seraient des morceaux de statues du 16e. Donc on aimerait ne pas les laisser à l'abandon. Pour le moment, ils sont à l'abandon dans notre clocher. Donc on aimerait bien essayer de les nettoyer tout doucement au pinceau, juste. Et puis regarder si on a les objets en entier. On en a au moins une, mais elle est vraiment magnifique. Donc on va voir si là aussi, on peut faire quelque chose pour ces présents que nous offre toujours cette église avec plaisir. Quand je vous disais tout à l'heure, c'est un coffret à bijoux, parce qu'à chaque fois qu'on regarde quelque chose, on trouve toujours quelque chose à faire et à redécouvrir et à restaurer.
Alors il faut savoir dans les secrets quel cas, je peux peut-être l'annoncer pour une découverte pour beaucoup de gens. Il y a un dernier trésor qui n'est pas forcément vu, mais on essaiera aussi de peut-être d'organiser des visites. On a la chance d'avoir aussi une relique de Saint-Julien qui est au sein de l'église. Donc c'est aussi un patrimoine important et on a encore cette richesse à faire partager avec les visiteurs.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler les contacts, notamment les contacts de la mairie de cette commune de Saint-Christophe-du-Jambay ?
Alors, donc pour contacter la mairie, vous pouvez nous joindre au 02 43 97 06 23 et l'adresse mail
mairie.saintchristophe-du-jambay-saint-st@wanadoo.fr.
Un mot pour la fin ?
Eh bien, écoutez, on vous invite tous à venir nous visiter, à venir voir notre église, participer aussi aux fêtes qu'on pourra faire dans cette église. Notamment, je pense qu'on va aussi, pour remercier les donateurs, préparer une fête, sans doute au printemps, pour symboliquement inaugurer la restauration de ces statues. Donc je pense que ce sera festif, mais on essaiera aussi d'organiser peut-être un concert. On va voir un peu ce qui peut être fait dès le printemps prochain. Et puis, on espère vous voir nombreux cet été pour venir visiter notre église. Et notre patrimoine rural, parce qu'on a aussi d'autres belles choses. On a effectivement des jolies maisons dans le centre-bourg, dont certaines ont été restaurées vraiment dans le respect du caractère pittoresque du village. On vous invite à venir vous déambuler, en tout cas, dans les rues de Saint-Christophe-du-Jambay.
Voilà. Et on peut remercier en fait tous les gens aussi qui contribuent et nous aident et nous soutiennent dans tous ces projets-là, parce qu'en fait, on voit bien qu'avec ce qui est intervenu, tous les donateurs qu'on a eu pour la Fondation du patrimoine, on a quand même beaucoup de gens, finalement des habitants qui sont derrière nous, et des personnes qui travaillent au sein du conseil municipal qui nous font avancer. Et pour tout ça, merci.
Et merci aussi au conseil municipal, effectivement, qui est là pour nous appuyer et avancer dans nos dossiers. C'est un temps précieux, c'est de l'investissement. Et moi, je les remercie pour leur assiduité et le temps consacré pour Saint-Christophe-du-Jambay, en tout cas.
Alors Madame David Vallée et Monsieur Frileux, je vous remercie et je vous félicite pour ce plan de restauration de cette église Notre-Dame de Saint-Christophe du Jambé. Je vous dis peut-être à bientôt sur notre antenne.
Avec plaisir.
Pourquoi pas.
Au revoir.
Merci, au revoir.
À bientôt.
Votre magazine Terre d'Héritage est terminé pour aujourd'hui. Passez une excellente journée sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles, 106.3 FM.